Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Il nous informe depuis plusieurs semaines en pleine crise du coronavirus au JT et sur les chaînes d'infos, on les voit tendre leur micro au bout d'une perche pour garder la distance réglementaire avec les personnes interviewées. Parfois, il et elle portent des masques. Comment faire son métier sans prendre de risques, ni pour soi-même, ni en faire courir aux autres? Pour en parler, nous sommes avec Frédéric Prabonneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste santé à France 2 et avec vous, David Brunet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter à CNews dans la région Grand Est. Frédéric Prabonneau, vous êtes journaliste, je l'ai dit, santé à France 2. Comment est-ce que vous vivez ce moment humainement et professionnellement?
Alors, c'est vraiment inédit pour nous de vivre une épidémie comme ça. On avait eu, au moment du H1N1, on avait eu cette peur-là d'une épidémie. On avait fait des plans, il y avait eu des prévisions. Mmh. Mais tout ça, c'était pas réalisé. En fait, on se disait, mais c'est assez... Ça semble improbable, ça semble incroyable, et en fait là, on se rend compte que non, c'est pas improbable, c'est ce qui nous arrive là, quoi. Donc on est évidemment obligé de s'adapter à tout ça.
Vous partez comment le matin au travail? Je vais dire à quoi je fais référence. Je fais référence à certaines infirmières ou même certains caissiers ou caissières qui partent au travail la peur au ventre.
Non, moi je dirais pas la peur au ventre. En revanche, il faut tout le temps se souvenir des précautions qu'on a à prendre. C'est plus être conscient des risques possibles, vous le disiez, à la fois, même peut-être pas tant pour nous que aussi pour les autres. Donc c'est vraiment être vigilant tout le temps et conscient. Mais moi je dirais pas que je pars la peur au ventre quand même.
C'est quoi les précautions que vous prenez concrètement et est-ce que ça s'est durci dans le bon sens du terme depuis le début de la crise?
Oui, ça s'est durci parce qu'aussi on en apprend plus sur ce virus et puis qu'on prend aussi plus de précautions. On essaie de le montrer pour que les téléspectateurs voient aussi les précautions qu'on prend. Donc c'est ce que vous disiez, on respecte les distanciations, la distanciation. On a des perches que vous voyez. D'habitude on met un petit micro cravate à nos interlocuteurs. Ce qui veut dire s'approcher, les toucher, etc. Donc maintenant on fait plus ça. On a une perche longue quand on est on porte des masques quand on va dans les quand on est à l'intérieur.
Vous portez des masques depuis quand?
Régulièrement, surtout en fait on les porte pas à l'extérieur quand on fait une interview à l'extérieur et qu'on respecte les distances, parce qu'on fait beaucoup d'interviews devant les hôpitaux, vous avez sans doute remarqué, en tout cas à Paris, parce que les conditions sont strictes pour rentrer, c'est normal, donc on rentre pas dans les services, donc on fait les interviews à l'extérieur, donc là on respecte les distanciations et
Allez-y, est-ce que vous saviez que les masques étaient généralement utiles ou comme beaucoup de journalistes vous dispensiez la parole officielle qui laissait à penser qu'ils étaient inutiles parce qu'en fait on voulait cacher un état de fait, à savoir qu'on était en pénurie de masques? De quelle manière, qu'est-ce que vous saviez au moment où cette crise a commencé au sujet des masques précisément?
Alors nous on s'est adapté, on respectait, on suivait les consignes qui était donné, c'est-à-dire que quand on nous dit vous n'avez pas besoin de masque quand vous êtes dans la rue, on respecte ça. En revanche, dès qu'on est dans un service, on fait la même chose que ce que font finalement les soignants, les personnels autour. Enfin, vendredi, on était en reportage à l'hôpital de Melun. Évidemment, on portait un masque et on s'adapte aussi à ce que font les équipes soignantes. On ne va pas arriver avec un masque, dans un hôpital alors que tout le monde le porte.
Je vais vous dire le sens de ma question. C'est pas sur le port ou non, c'était sur la parole qui était donnée à ce micro. Marina Carrère-Dancause, qui présente le magazine de la santé sur France 5, a reconnu qu'elle savait que les masques étaient utiles, mais il persistait à dire qu'ils n'étaient pas inutiles. Et elle l'a dit elle-même, ils ont menti pour la bonne cause, pour ne pas générer un mouvement de panique et l'afflux dans les pharmacies.
La ligne, en tout cas ce que nous on faisait, c'était effectivement de dire ce qu'on nous disait à un moment où on avait aussi Là, c'est vrai que maintenant, on a des études plus récentes sur les risques de transmission qui sont quand même plus récentes. Il y en avait une déjà en mars, une étude qui alertait sur la capacité à transmettre en aérosol. Mais cette étude, elle avait été beaucoup critiquée, même par des scientifiques qui expliquaient que, en fait, elle n'était pas très bien faite et que quand on parlait, quand on toussait, c'était pas la même chose que ce qui avait été fait dans l'étude. Donc, il y avait eu cette première étude, mais qui était finalement contestée par les scientifiques eux-mêmes. Là, il y a eu de nouvelles études qui ont été publiées, notamment dans le New England, là, le week-end dernier. C'est vrai aussi qu'on apprend au fur et à mesure. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas au début.
Mais ça, vous ne le savez pas. Je vais poser la même question à David Brunet. Vous êtes reporter à CNews dans la région Grand Est. Avant de parler de votre manière de travailler, qu'est-ce que vous saviez au niveau des masques? Et est-ce qu'il vous est arrivé de donner, si j'ose dire, une sorte de propagande officielle à l'antenne pour ne pas créer un mouvement de panique à ce sujet?
Je pense que, Philippe, on ne s'est pas posé la question concernant une telle ou telle propagande concernant les masques. Nous, on avait des consignes au niveau de notre rédaction pour pouvoir justement aussi se protéger et protéger les autres. Donc c'est vrai qu'avant que le confinement soit donné par le gouvernement, on avait déjà pris des consignes, nous, pour justement se protéger, mais protéger les personnes qu'on allait croiser pendant les reportages. Je pense que c'est une prise de conscience aussi de notre part en tant que journaliste, parce que finalement, même s'il y avait cette demande de distanciation lors des reportages, il fallait aussi être respectueux des personnes que nous allons croiser. Moi, mon dernier reportage a été fait justement d'une visite et comment justement les personnes qui faisaient de l'aide à domicile s'organisaient. Donc, on allait croiser évidemment une population dite sensible. Donc, il n'était pas question de se promener. Entre autres, c'était chez un tétraplégique, chez cette personne, avec aucun masque, sans pour autant respecter ce lieu, avec des personnels qui, eux, se lavaient les mains, etc. etc. Donc, on n'a pas forcément donné cette propagande. Nous, on pensait sur le terrain, tout simplement, à s'adapter en temps réel à ce qu'on a croisé sur les réalités de notre tournage.
Propagande, le mot est peut-être un petit peu fort. Disons que c'était la version officielle. On va vous retrouver, David Brunet. On va entendre quelques extraits de votre reportage. Évidemment, vous restez avec nous, Frédéric Prabonneau. On continue à parler des reporters, comment ils travaillent sur le terrain pour nous informer en période de coronavirus. On marque une pause. On se retrouve tout de suite.
C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Leclerc. Pour soutenir les filières françaises et les produits de saison qui arrivent dans nos rayons, on a tous un rôle à jouer. Cette semaine, nous défendons l'agneau français ainsi que les salades de production française. Pour que ces produits savoureux soient accessibles à tous, profitez du ticket solidaire, un bon d'achat de 20% de tickets Leclerc financé par nos magasins. Comptez sur nous pour soutenir les produits français de saison et pour vous en faire profiter.
Leclerc.
Offre valable du 6 au 11 avril, réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Face au coronavirus, nous devons rester chez nous pour nous protéger et protéger les autres. Mais en période de confinement, les risques de maltraitance sur enfants augmentent et nos chances de les repérer diminuent. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants victimes de violences ont besoin de notre vigilance à tous. Alors si vous êtes témoin de maltraitance ou que vous entendez des bruits suspects dans votre voisinage, n'attendez pas. Dans le doute, appelez le 119 ou signalez-le sur allo119.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Comment informer sur le terrain au sujet du coronavirus? Comment continuer à faire des reportages? On en parle avec Frédéric Prabonneau, les journalistes santé à France 2. Et David Brunet, vous êtes reporter à CNews dans la région Grand Est. Vous, votre situation est un peu particulière parce que vous êtes seul, vous n'êtes plus en équipe. Expliquez-nous, comment travaillez-vous?
La question que je me suis posée, moi, c'était tout simplement de pouvoir savoir comment j'allais durer dans le temps. C'est aussi un peu bizarre de dire ça, mais C'était une réalité, c'est-à-dire que quand on fait face à une situation telle que la connaît, et la connaît toujours l'Alsace, le Grand Est, en l'occurrence, avec ce foyer épidémique très très actif à Mulhouse, il fallait tout simplement essayer de trouver des solutions pour s'adapter. Donc ça s'est passé par une logique, une réflexion technique, c'est-à-dire que comment pouvoir donner aux téléspectateurs l'information en temps réel.
Parce alors justement, bien comprendre. Alors voilà. comment faites-vous concrètement?
Concrètement, c'est tout simplement, moi j'ai décidé de travailler seul, comme vous disiez Philippe, c'est-à-dire que je ne vais plus dans les services d'urgence, je préfère solliciter justement les médecins, d'ailleurs j'ai rendez-vous avec un médecin urgentiste via Skype, c'est une façon technique et concrète justement de pouvoir garder le contact et de pouvoir continuer justement à faire de l'image, c'est-à-dire on fait des interviews tout simplement via Skype, et je m'autocale, c'est-à-dire que je me déplace sur le terrain, à proximité de ces hôpitaux, pour faire une incarnation concrète. C'est-à-dire que je ne fais pas ça, on va dire, de ma salle à manger ou de mon bureau, donc je me déplace, je m'autocadre, c'est-à-dire que je fais à la fois...
Vous mettez la caméra sur pied, vous retournez, vous mettez de l'autre côté, comme quelqu'un qui fait un selfie, mais en plus, en professionnel. Au lendemain, vous en parliez tout à l'heure, au lendemain du premier tour des municipales, vous avez tourné un sujet sur la situation des aides à domicile, extrait.
Pour Émilie, auxiliaire de vie, chaque intervention chez un bénéficiaire d'une aide à domicile commence par ce geste.
C'est un geste très important, très très important en ce moment, ouais. Parce qu'à cause du coronavirus.
Car il faut éviter de transmettre le virus ou de l'attraper, surtout quand on est auxiliaire de vie. Un personnel très impacté par la fermeture des écoles dans le Haut-Rhin. Émilie est arrivée à faire garder sa fille, mais d'autres de ses collègues, faute de solution, ont été contraintes de stopper leur activité.
C'est votre dernier sujet sur le terrain, si j'ose dire?
Exactement.
Pourquoi vous avez arrêté? Vous avez peur pour vous ou pour les autres? Réponse interdite, les deux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, si j'ose dire?
Non, Philippe, c'est-à-dire que la question, c'était tout simplement, c'était la difficulté de pouvoir suivre en temps réel et cette situation dans le Haut-Rhin. C'est-à-dire que dans le Haut-Rhin, c'est-à-dire l'actualité du matin n'était plus celle du midi, n'était plus celle, on va dire, du soir. Donc il fallait absolument trouver une solution technique, justement, pour suivre cette actualité. Et c'était le principal. Honnêtement, une fois que vous êtes allé dans un service d'urgence, une fois que vous avez fait ces images, une fois que vous êtes allé expliquer ce qu'est le confinement, vous l'avez déjà montré, donc ça ne sert à rien de répéter, on va dire, ces mêmes images. L'objectif pour moi, je le répète, c'était de durer et de pouvoir justement donner cette information, de faire mon métier de journaliste, c'est-à-dire donner l'information. Et comme je le dis, l'information du matin n'est plus celle du midi. Oui. Quand vous avez un chiffre qui tombe le matin qui n'est plus le même et qui est balayé par une évacuation, par exemple, de l'armée à l'hôpital, à l'aéroport de Balmulhouse, il faut être capable de suivre cette actualité. Et la seule solution, c'était justement de pouvoir donner cette information en autocadrage, c'est-à-dire en direct, avec mes propres moyens.
Frédéric Pramonneau, vous êtes journaliste santé à France 2. Est-ce que vous continuez à tourner dans des endroits à risque comme les hôpitaux et les EHPAD?
Les EHPAD, on ne rentre pas avec une équipe. Donc vous pouvez voir, on trouve d'autres solutions. On demande aux gens de se filmer, par exemple. Ou on filme à travers des fenêtres, ou on demande à des personnels, pareil, de sortir de l'EHPAD, mais on ne rentre pas. En revanche, on rentre encore dans des services en prenant évidemment toutes les précautions. Je vous disais, on a été accueillis à l'hôpital de Melun, là, vendredi après-midi, par exemple. C'est aussi important de montrer comment ils travaillent dans ces services et franchement leur dévouement, la mobilisation, comment est-ce que ces hôpitaux se réorganisent, comment ils ont des renforts. Tout ça, c'est aussi important de les entendre quand ils disent qu'ils ont des craintes sur l'approvisionnement en traitement, par exemple. C'est important aussi de les voir dans leur quotidien. Donc on continue à le faire, mais avec des précautions, évidemment.
Évidemment. Et je précise qu'évidemment, les reporters d'Europe 1 sont toujours sur le terrain. Encore ce matin, dans la matinale de Mathieu Béliard, vous avez pu entendre les reportages sur le terrain de Xavier Yvon, de Jean-Sébastien Soldaini et de Mathieu Bock. Merci beaucoup, Frédéric Pramonneau. Vous êtes journaliste santé à France 2 et David Brunet, reporter à CNews dans la région Grand Est. Merci de continuer à tourner et merci d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Europe 1.